Au football maintenant, le tableau s'est précisé en fin de semaine avec 6 matchs éliminatoires, 3 nouvelles équipes en vacances. Parlant de vacances, un nouvel entraîneur en vacances, bien que son équipe ne jouait pas en fin de semaine. Doug Peterson n'a pas réussi à convaincre le propriétaire des Eagles de Philadelphie de le garder à la barre de l'équipe. Beaucoup de questions dans plusieurs marchés. Bruno Eppel est avec nous. Bonsoir Bruno.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très bien, content de te retrouver. Et on regarde du coin de là, bien sûr, le match universitaire ce soir, la finale universitaire américaine. Mais on se concentre sur la NFL. Des 6 matchs, là, par où tu as envie de commencer? Quelle est pour toi la surprise du week-end?
Ah ben mon Dieu, on n'a pas besoin d'aller loin. Ça m'a même fait perdre une petite gageure amicale avec un ami. Moi, j'avais pas vu les Browns aller battre les Steelers.
Ah non?
De cette façon-là.
Ah.
Et je vais te dire de cette façon-là, dans la mesure où, tu sais, évidemment, les Rams aussi qui battent les Seahawks pourraient être une surprise.
Oui.
Mais de voir les Steelers, qui je comprends n'avaient pas joué du bon football en fin de saison, sortir de cette façon-là, chez eux, face aux Browns qui avaient gagné 6 fois dans les 50 dernières années au stade de Pittsburgh, moi, je l'avais pas vu venir. Comprends-tu?
Oui, oui, oui. Ben, y en a plusieurs qui ne l'ont pas vu venir. Et d'ailleurs, de la manière dont le match a commencé, c'était comme une espèce de volcan en éruption que les Browns de Cleveland. Un revirement. On peut-tu dire que Roethlisberger n'a pas été bien chanceux parce que plusieurs des revirements, c'est sûr que le lendemain, quand tu regardes le résumé du match, tu ne regardes pas effrayant, tu dis, hey, il a été pourri, Roethlisberger. Mais combien de ballons qui ont bondi de façon abracadabra jusque dans les mains d'un joueur des Browns?
Oui, puis c'est, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être une interception, deux là qui sont sa faute. Les autres, un ballon dans les mains de Deontay Johnson qui est encore après ça tombé dans les mains d'un joueur des Browns. Le premier snap du match, la première remise du match du joueur de centre qui a passé par-dessus la tête de Big Ben pour aller se retrouver dans la zone de but, puis les Browns prennent les devants. C'était 28-0 à la fin du premier quart.
Un record.
Ça n'avait pas de bon sens. On regardait ce match-up, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Puis en bout de ligne, quand tu te mets à l'analyser le match, tu te dis, il y avait une équipe définitivement mieux préparée pour ce match-là, je pense. Puis c'est quand même drôle que c'est celle, qu'il faut pas l'oublier, avait eu un entraînement le vendredi avant de s'envoler le samedi pour aller jouer le match dimanche à Pittsburgh, qui avait pas son entraîneur-chef. Puis c'est eux qui sont sortis forts en plus, et qui avait comme plus de désir de vaincre, tu sais, tu comprends? Parce que c'est bien beau les revirements, mais à un certain moment donné, il y a aussi le fait qu'on s'est fait dominer physiquement. Et ça, c'est pas, c'est rien d'autre que de la préparation et du désir de vaincre. Et ça, moi, je chapeau aux Browns, vraiment, qui avaient l'air d'une équipe qui voulait plus, tout simplement, que les Steelers hier.
Ça fait tellement cliché, là, mais les Steelers semblent avoir pris des Browns à la légère, puis ils se sont peut-être je regardais Ben Roethlisberger spéculer sur le fait que Baker Mayfield allait être privé de la voix de son coordonnateur offensif, puis lui, comment il trouverait ça compliqué d'être privé de son coordonnateur. Bref, au lieu de penser à eux autres, puis comment ils allaient jouer, ils ont trop pensé aux Browns, on dirait bien. Et
ben, t'as raison, ils ont sous-estimé, puis c'est ce début de match-là, parce que quand tu regardes le reste du match, les Steelers ont gagné 37-20 les trois derniers quarts. Mais ils ont malheureusement perdu le premier 28-0 par leur propre faute en grosse majorité. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est ça qui me fait dire qu'on va peut-être devoir changer des choses du côté des Steelers, changer certains joueurs en attaque. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Big Ben qui est resté, il faut le dire, là, une quinzaine de minutes après le match, assis sur le banc, sur les lignes de côté, seul. Son joueur de centre, Pouncey, est allé le rejoindre. Il était en larmes, il pleurait. De toute évidence, en grande réflexion, je pense, aussi évidemment très déçu du résultat. Là.
On aura droit à un autre affrontement en fin de semaine prochaine entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Saints de la Nouvelle-Orléans. À partir de ce que tu as vu de ces deux clubs-là dans leurs victoires respectives, comment vois-tu le match du week-end prochain? Je t'amène déjà là.
Écoute, c'est fantastique. Hein? Et Drew Brees l'a dit, quand on lui a posé la question aujourd'hui, puis il a dit c'était inévitable. C'est un rendez-vous qui était inévitable dans la mesure où les deux équipes sont dans la conférence nationale. Donc, là, l'affrontement qu'on voulait tous voir, Tom Brady contre Drew Brees, je suis convaincu, tu me demandes ce que j'attends un match spectaculaire, parce que là, les Buccaneers, offensivement, ont fini la saison à pleine vapeur.
Vraiment.
Tom Brady a eu la saison, une des meilleures saisons de sa carrière à 43 ans. Et du côté des Saints, ben c'était la première fois qu'on était en santé face aux Bears. On a eu un mauvais début de match, mais plus le match a avancé, plus on s'est rendu compte là que la machine offensive était capable de se mettre en branle.
Oui.
Donc là, moi, je me dis, les Saints en santé offensivement face aux Buccaneers, qui finalement commencent à avoir de la cohésion en attaque, j'ai bien l'impression que ça va être un match haut en pointage, spectaculaire, à la hauteur des deux carrières qui vont jouer.
Hâte de voir qu'est-ce qui va faire ultimement la différence. Entre-temps, pour les équipes qui cherchent un quart arrière, permets-moi de parler un petit peu du quart arrière des, j'allais dire des Redskins, excusez-moi, mais de Washington Football Team, qui a attiré, qui a fait carquiller bien des yeux, Taylor Heinicke. Et il y a bien des gens qui se demandaient comment se fait que ce gars-là jouait pas dans la NFL il y a quelques semaines, bien qu'il y ait eu des expériences ici et là, avec quelques équipes, mais je pense qu'il vient de se mettre au monde, lui, dans la défaite de Washington, Bruno.
À tout le moins pour un poste de deuxième.
Au moins, au moins.
C'est ça. Le gars, il ne faut pas oublier, il est arrivé au début décembre. Il y avait un mois, ça faisait juste un mois qu'il était avec Washington. Il avait pataugé un petit peu là, dans la NFL, comme tu viens de le dire, mais là, il était surtout, au moment où on l'a rappelé en décembre, en train de finir sa maîtrise à l'université.
Ben oui, il suivait des cours de mathématiques sur Zoom. Imagine la gang de Zoom quand ils ont regardé le football. Hier, ils ont dû faire le saut.
Ben, c'est une histoire incroyable. Il était en train de finir sa maîtrise parce que, de toute évidence, il avait passé à autre chose, là, lorsqu'il a reçu le coup de téléphone de Washington. Et il a supplanté, évidemment, un paquet d'autres carrières qui étaient là. Oui, il y a eu des blessures. On a retranché Dwayne Haskins. Par la force des choses, il s'est retrouvé à être partant. Mais il a profité de sa chance pour être impressionnant, pas à peu près. La seule mauvaise nouvelle pour lui, c'est que sa blessure à l'épaule, on apprend qu'elle est peut-être plus sérieuse que prévu. Mais imagine, il a joué avec cette blessure-là. Fait qu'en plus d'avoir montré de la mobilité, de la précision, une capacité d'assimiler un cahier-jeu de la NFL en un mois, puis de le livrer sur le terrain comme celui-là, ben il a démontré en plus qu'il était courageux puis qu'il était tough. Fait que tout ça mis ensemble, moi, j'étais un GM de NFL, là. Je pense qu'il mérite au moins un contrat de deuxième.
Hey, honnêtement, là, il y a eu là un magicien 2-3 fois quand il s'est sorti d'un blitz évident, là. Je sais pas comment il a fait de se sortir de là, mon homme, mais...
Hey. Puis lui, là, il affrontait Tom Brady, là, on l'oublie, mais tu sais, pense-y, là, pour le jeune, là, qui est en train de finir sa maîtrise.
Il est allé serrer main après la game, je sais pas si tu as vu, il est allé direct voir Tom Brady, tu sais, comme un jeune écolier qui salue le King, là, c'était spécial.
Il a probablement demandé un autographe,
tu sais. Aïe, 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 en tout cas, on lui souhaite la meilleure des chances, mais ça fait des belles histoires.
C'est la plus belle histoire du week-end. Du wildcard, ça c'est certain.
Il n'y a aucun doute. Un autre aurait pu vivre toute une histoire, mais tu sais, des fois, le timing, crois-tu à ça le timing dans la vie, Bruno? Je sais pas si t'es
Le timing, c'est le timing is everything.
Oui, hein? et John Wolford hier, le quart partant des Rams de Los Angeles, honnêtement, pas un méchant début de match, là. Rien de spectaculaire, mais à un moment donné, sur une personne attaque, un coup d'épaule à la tête, blessé, s'en va à l'hôpital en ambulance. Jared Goff qui se remet, quoi, ça fait même pas deux semaines, une opération, une chirurgie au pouce, arrive dans le match, j'ai été étonné. Et là, les Rams gagnent, puis plus le match allait, puis plus Goff retrouvait des repères, lui qui semblait un petit peu perdu avant sa chirurgie.
Oui, mais il s'est perdu avant sa chirurgie, puis tu l'as dit, quand il est arrivé dans le match, sa première passe, on s'est dit « ouf ». Mais en même temps, on ne pouvait pas le blâmer.
Mais non.
Opérer au pouce, dans la main avec laquelle tu lances le ballon. C'est pas rien, là.
Ben
tu sais, quand tu tiens un ballon, là, regardez ceux qui sont à la maison qui nous écoutent, là, votre pouce, là, c'est le seul appui là, du côté opposé de tous les autres doigts. Mettre de la pression sur ce pouce-là ne devait pas être évident. Bravo, Jared Goff, d'avoir réussi à jouer ce match-là. Mais il faut dire, la raison qu'on a gagné du côté des Rams, c'est la performance défensive de la semaine du week-end du Walker, celle des Rams, Darren Donald, de Jalen Ramsey, qui ont donné du fil à retordre à Russell Wilson. J'ai jamais vu Russell Wilson avoir l'air aussi fou, là.
Oui.
Dans le sens où il savait pas vraiment où lancer le ballon. Il y avait aucun repère. Il semblait vraiment hésitant sur chacun des jeux. Bravo. Les Rams, défensivement, ont prouvé. Il était la meilleure défense de la NFL dans la saison régulière, mais ils ont définitivement été la meilleure défense en fin de semaine.
Est-ce que tu sais si la blessure à Donald est sérieuse?
Ben c'est une blessure qu'on dit
au jour le jour,
là, si on veut, au cartilage là.
Okay.
Torn ribs là, fait que si on veut le torn cartilage, des cartilages un petit peu craqué, on dit qu'il va jouer. Donc, tu sais, puis à ce temps-ci de l'année, il va jouer. Peut-être qu'on va injecter un petit peu de painkiller pour qu'il puisse jouer le match, mais je pense qu'on a affaire à avoir Aaron Donald au centre de cette défensive-là lorsqu'on va affronter les Packers et Aaron Rodgers.
Je sais pas si ça va être l'heure de la... Ouais, mais hein, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si ça va être l'heure de la retraite pour Philip Rivers, qui a perdu avec les Colts d'Indianapolis hier 27-24. Je sais pas si Ben Roethlisberger, après la défaite d'hier contre les Browns, va envisager la retraite. Est-ce que tu crois qu'on va voir ces deux gars-là l'an prochain?
Ben, Philip Rivers, de la façon dont il a joué, puis je pense qu'il n'a aucune intention de prendre sa retraite, là, puis on le disait à la blague hier, Pierre Vercheval disait ça, mais avec 9 enfants, j'aurais peut-être pas envie de prendre ma retraite, moi non plus, là. J'ai pas le goût d'être à la maison tant que ça. Mais il a bien joué, écoute, il a bien joué, Philip Rivers, puis je pense que à moins qu'on trouve un meilleur corps que lui du côté des Colts, j'ai l'impression qu'on va tenter de le ramener, parce qu'il a quand même connu, il a donné une chance aux Colts de gagner ce match-là. Il a connu un match suffisamment bon pour qu'on lui donne une autre chance. Maintenant, c'est sûr que si tu peux faire l'acquisition d'un Matthew Stafford, par exemple, mais qui est plus jeune un peu, ben là, à mon avis, on va peut-être passer à autre chose.
Hey, j'aimerais ça, puis j'ai hâte de voir Stafford dans un autre club que les anémiques, ouais. J'allais dire Tigers, les Lions de Détroit.
Lui. On va espérer pour Matthew Stafford que les Lions décident de passer à autre chose et de le laisser partir sous d'autres cieux, parce qu'il y a le talent, lui, pour gagner un Super Bowl, mais ça ne sera vraiment pas avec les Lions. Là.
Il n'y a jamais eu de club, non. Les autres, là, la médiocrité, ils connaissent ça. Bruno, sur ce, on se repart de toute façon en prévision du prochain week-end avec des bons matchs éliminatoires, et je te laisse analyser le match que je vais regarder aussitôt rendu à la maison ce soir entre Alabama et Ohio State.
Un classique.
Yes.
Salut.
Merci, bye-bye. Bruno. Bye-bye.